suivre sur RFI, le grand invité Afrique, on dresse un premier bilan du mandat de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais élu il y a tout juste un an sur la promesse d'une rupture totale. Christophe Boisbouvier reçoit ce matin Aïb Dafé, le secrétaire général du parti au pouvoir, le PASTEF. Mais d'abord, le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
En football, sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Gabon s'éveille en tête du groupe F.
Et les Panthères peuvent remercier pour ça leur serial buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé pour son retour sur les terrains. Le double Prifoé permet aux Gabonais de s'imposer 2-1 sur le Kenya et de remporter leur cinquième match dans ces éliminatoires. Les Panthères, première de leur groupe, avec 2 points d'avance sur la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur Thierry Mouyouma était satisfait du carton plein réalisé par ses joueurs lors de cette trêve de mars.
Nous voulions gagner, ou alors au moins ramener un point si on ne pouvait pas décrocher la victoire. Heureusement pour nous, on l'a emporté. Donc nous sommes contents car les qualifications pour la Coupe du Monde sont difficiles. Et puis depuis que nous avons commencé, c'était la première fois que l'on jouait dans un stade plein parce que, comme vous le savez, beaucoup d'équipes du groupe ne peuvent pas disputer leur match à domicile. Cette fois, le stade était vraiment bien rempli et nous avons apprécié cela. Je tiens d'ailleurs à remercier les supporters kényans qui étaient derrière leur équipe tout en nous respectant beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment une victoire importante pour nous.
Thierry Mouyouma avec Fritz Koum. L'autre match de dimanche a vu l'Iswatini et l'île Maurice se neutraliser 3-3 et rester en queue de peloton de leur groupe D.
Suite ce lundi de cette sixième journée, 8 matchs à l'agenda, le premier des 13h temps universel.
La Namibie reçoit la Guinée équatoriale à Johannesburg. À l'aller, les Équato-Guinéens avaient gagné, mais leur victoire s'était retrouvée annulée en raison de la disqualification d'Emilio Nsoué. En juin dernier, la FIFA avait estimé que le meneur de jeu jouait illégalement pour son pays et l'avait suspendu pour 6 mois. Désormais, tout est réglé et Nsoué savoure son retour, Baptiste Leduc.
Est-ce la fin heureuse d'une histoire tourmentée entre Emilio Nsoué et la Guinée équatoriale? Il y a quelques jours, contre Sao Tomé, l'attaquant de 35 ans signait son retour avec le Nzalang National par un but et une victoire. La FIFA a finalement reconnu le changement de nationalité d'Emilio Nsoué. Le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale peut donc reprendre le fil de sa carrière internationale et ce dénouement semble même avoir apaisé les tensions entre Emilio Nsoué et sa fédération. Après la dernière CAN, il avait été écarté de la sélection pour indiscipline. Un apaisement bienvenu donc, car c'est un sacré défi auquel l'attaquant et ses partenaires doivent faire face. La suspension du joueur d'Intercity en 3e division espagnole avait entraîné la perte sur tapis vert des 2 premiers matchs de qualification au Mondial contre le Liberia et la Namibie. La Guinée équatoriale se retrouve donc avant-dernière du groupe H avec 7 points de retard sur le leader tunisien. Objectif remontada pour le Nzalang National avec Emilio Nsoué pour mener la charge.
Namibie, Guinée équatoriale, 13h TU, en ouverture d'une journée qui va s'étirer jusqu'au soir, Antoine.
Et 2 derniers matchs qui débuteront à 21h temps universel. L'Éthiopie accueille Djibouti et la Tunisie va chercher à rester invaincue. Les Aigles de Carthage accueillent le Malawi. Avant ça, à 16h temps universel, le Liberia accueille Sao Tomé et le Burkina Faso se déplace en Guinée-Bissau. Tandis que le Mali va lui tenter de mettre la pression au leader de son groupe I. Les Aigles en déplacement au Maroc pour affronter la Centrafrique. Une victoire et les Maliens s'intercaleraient entre le Ghana et Madagascar qui s'affrontent à 19h TU. À la même heure, les champions d'Afrique ivoiriens reçoivent la Gambie. Les éléphants n'ont pas le choix. Seule une victoire leur permettra de repasser devant le Gabon, Marion.
Merci Antoine Grenier. Vous revenez d'ici une demi-heure à peu près. On parlera de la Ligue des Nations de football.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
6h47 à Paris, à la une de l'actualité ce lundi 24 mars. La mobilisation prend de l'ampleur en Turquie pour réclamer la libération du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu a été incarcéré hier pour corruption. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir. Après des pourparlers constructifs entre l'Ukraine et les États-Unis, des pourparlers russo-américains s'ouvrent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ils s'annoncent plus compliqués. Le Kremlin reste très mesuré. Israël poursuit ses frappes à Gaza, notamment sur un hôpital de Khan Younes, où l'armée israélienne affirme avoir tué un membre du bureau politique du Hamas à Rafah. Dans le sud, l'armée a encerclé un quartier et dit avoir visé des organisations terroristes. On revient sur ces frappes dans le prochain journal. On est en direct de Jérusalem. On dresse aussi ce matin le bilan du début de mandat de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. 1 an au pouvoir, le nouveau gouvernement a lancé toute une série d'audits notamment sur les comptes publics. Le nouveau Premier ministre canadien annonce des législatives anticipées le 28 avril sur fond de guerre commerciale avec son voisin. Donald Trump veut nous briser, mais nous ne nous laisserons pas faire, a martelé hier Marc Carnet. L'ouverture du procès de Gérard Depardieu, l'acteur français est accusé d'agression sexuelle par deux femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Et puis en France, toujours l'association SIDAction a reçu près de 4 millions d'euros de promesses de dons lors de son opération annuelle de collecte, un montant en légère hausse par rapport à l'an dernier. Au Sénégal, c'était donc il y a un an, jour pour jour, la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle dès le premier tour avec 54% des voix, la victoire donc de l'opposition. Un an plus tard, où en est la rupture promise par le parti PASTEF? Quels sont les principaux changements revendiqués par le président, Bassirou Diomaye Faye, pardon, et le premier ministre Ousmane Sonko? Aïb Dafé est le secrétaire général du PASTEF. Il est aussi député et chef du groupe parlementaire du PASTEF en ligne de Dakar. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Aïb Dafé, bonjour.
Bonjour.
Quels sont pour vous les premiers changements tangibles que le PASTEF a apportés au Sénégal?
Les premiers changements tangibles sont d'abord dans la gouvernance. Conformément à son engagement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhaté Faye, a inscrit la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme une priorité de sa politique en transmettant une lettre aux fonctionnaires du pays pour les exhorter à la ponctualité, au respect du bien public, à l'efficacité et au respect de la hiérarchie. Donc, sur ce plan-là également, il a eu à organiser des assises de la justice sur la modernisation et la réforme de la justice au Sénégal. Et par ailleurs, il a eu aussi à publier tous les rapports des corps de contrôle qui étaient transmis à son prédécesseur depuis près d'une dizaine d'années et qui n'étaient pas publiés, contrairement aux textes qui les encadrent. Il a eu également à faire un audit sur la gestion des finances publiques de son prédécesseur, notamment la période entre 2019 et 2024. Et c'est cet audit qui a permis de révéler une situation très peu reluisante de nos comptes publics avec un déficit à 12% du PIB, alors que les chiffres qui étaient présentés parlaient de déficit à 5%. Donc, une véritable catastrophe budgétaire, si on peut parler ainsi. Et ça a permis d'avoir une situation réaliste. Donc, en très peu de temps, il a eu à concrétiser sa vision et à développer la stratégie de développement.
Suite au dernier rapport de la Cour des comptes, vous dites que l'ancien président Macky Sall, qui vit actuellement au Maroc, va être convoqué par la justice sénégalaise. Mais celui-ci, dans une interview à Jeune Afrique, réplique qu'il n'est responsable d'aucune falsification et que tout ceci est ridicule.
Bon, je pense que la Cour des comptes est une institution, donc c'est la parole de Macky Sall contre celle de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, c'est la loi qui lui confère cette mission-là, donc je ne vois pas comment on peut remettre en cause un rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. Maintenant, il est dans son rôle d'homme politique de défendre son bilan, son mandat, mais la réalité est qu'il y a un désastre budgétaire, il y a un désastre financier. On parle vraiment d'une catastrophe sur le plan budgétaire parce que, par exemple, on nous a révélé qu'il y a plus de 2500 milliards de francs CFA qui a été emprunté auprès des banques de la place, alors que l'Assemblée nationale n'a pas fait d'autorisation, l'Assemblée nationale n'a jamais été informée. Donc, cette dette cachée et beaucoup d'autres irrégularités qui vraiment sont aux antipodes de la bonne gouvernance. Maintenant, sa responsabilité politique, effectivement, est engagée. Bon, maintenant, j'ai pas entendu dire qu'il sera convoqué par la justice parce que vous savez que la Constitution, le président de la République, il ne peut être poursuivi que pour haute trahison et devant la Haute Cour de justice. Donc, cela n'est pas encore le cas. Et si cela devait l'être, ce sera conformément à la Constitution, aux lois et aux règlements du Sénégal.
Oui, mais le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndjek Sarré, a dit sur RFM qu'inévitablement le président Macky Sall fera face à la justice.
Effectivement, il a eu à le dire, mais lorsqu'il le disait, il a eu à préciser que quand il le disait, c'est pas de la version du gouvernement, mais il parlait en tant qu'homme politique.
À votre arrivée au pouvoir, Aïb Dafé, vous avez promis que les accords du Sénégal avec les compagnies qui doivent exploiter le gaz et le pétrole offshore seraient réévalués. Mais un an plus tard, toujours rien. Si jamais les contrats ne sont pas renégociés, est-ce que vous ne risquez pas de décevoir vos électeurs ?
Je pense que le travail de renégociation des contrats, c'est un processus qui est entamé. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Et en accord avec les compagnies, il y a des négociations qui se déroulent et qui devraient aboutir bientôt à des résultats.
Avec BP, British Petroleum ?
C'est tous les contrats qui sont concernés parce qu'il y a une revue des contrats qui est faite par le ministère de l'Énergie. Et maintenant, pour BP, le contrat concerne aussi bien le Sénégal que la Mauritanie. Et je pense que le Premier ministre a eu à faire plusieurs voyages en Mauritanie et le ministre de l'Énergie également. La primature a mis en place un comité pour la renégociation de tous ces contrats stratégiques. Mais d'abord la revue et ensuite la renégociation.
Monsieur le député Aïb Dafé, je vous remercie.
Entretien de Christophe Boisbouvier. Et on fera le bilan économique de cette première année au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye dans la chronique. Aujourd'hui, l'économie après le journal de 6 heures, temps universel. La chronique des matières premières. Aujourd'hui, on parle du bismuth. C'est un métal utilisé pour fabriquer des médicaments, de la peinture ou encore des alliages. Et les prix du bismuth s'envolent. Marie-Pierre Olfan, plus 700% en un mois et demi. Comment l'expliquer, Marie-Pierre ?
Eh bien, essentiellement parce que le bismuth est soumis à des restrictions chinoises depuis début février. Cela fait partie des réponses prises par la Chine aux sanctions américaines. Le métal qui se caractérise par une couleur jaune quand il est utilisé comme pigment n'est pas interdit à l'exportation, mais fait l'objet de contrôles drastiques sur les destinataires et l'usage qu'ils comptent en faire. Le temps de mettre en œuvre cette nouvelle réglementation, les exportateurs chinois ont considérablement ralenti leurs exportations. L'impact sur les prix a été immédiat. Avant les restrictions, le métal s'échangeait à 12 dollars le kilo. Il se vend autour de 85 dollars aujourd'hui et des offres à 90 commencent à circuler. On parle là des prix européens. Aux États-Unis où le métal est taxé à 45%, les prix sont encore beaucoup plus élevés.
Parce que la Chine à elle seule produit 80% du commerce de bismuth raffiné.
Et oui, il y a peu de bismuth sur Terre et l'essentiel est effectivement raffiné en Chine. Les États-Unis, c'est simple, n'en produisent pas, n'en raffinent pas depuis plus de 10 ans. Leur seule source propre vient du recyclage d'alliages. Ils achètent les deux tiers de leur bismuth en Chine et un peu plus de 20% en Corée du Sud. L'Europe est elle aussi très dépendante vis-à-vis de l'Asie pour son approvisionnement.
À ces prix-là, la demande va-t-elle baisser ?
Alors elle a déjà baissé car beaucoup d'industriels ne sont pas capables d'absorber cette hausse. Même s'ils utilisent peu de bismuth, quand on approche 100 dollars le kilo, le prix n'est plus anodin. S'il dure trop longtemps, ces prix pourraient finir par pousser à une réorientation géographique des approvisionnements et peut-être provoquer un sursaut d'intérêt pour le stockage de métaux critiques qui, tant qu'ils étaient disponibles et peu chers, ne suscitaient pas grand intérêt.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières.
RFI Matin.
Aujourd'hui, grand reportage vous emmène tout à l'est du Tchad, dans la petite ville de Farchana. Construite sur du sable, cette ville connaît de nombreux bouleversements. Le réchauffement climatique et la déforestation qui frappent la région ont érodé ses sols. L'eau est rare et à cela s'ajoute un drame humanitaire puisque Farchana accueille plus de 50 000 réfugiés soudanais qui fuient le conflit dans leur pays. Les habitants craignent que cela affecte leurs ressources. Voyage à Farchana face à une double crise climatique et humanitaire avec ce grand reportage d'Igor Strauss, on en écoute un extrait.
Les réfugiés, boucs émissaires ou acteurs malgré eux de la dégradation de l'environnement, ils sont près de 52 000 à Farchana pour une population locale d'à peine 7 000 âmes. Alors quel est leur réel impact sur les ressources naturelles comme l'eau, le bois ou les terres cultivables ? Fadoul, notre guide quincaillier, souhaite à présent nous montrer un nouveau château d'eau construit par l'UNICEF avec des financements de USAID. À l'est du Tchad, les sécheresses à répétition ont aggravé les problèmes d'accès à l'eau. C'est une des problématiques majeures des habitants de la région qui craignent pour leur vie, leur santé et leurs moyens de subsistance que sont l'agriculture et l'élevage.
Ah, on est arrivé au château d'eau ?
Oui, c'est ça.
Ah oui.
Ça, c'est USAID.
Alors, où est-ce qu'on est là, monsieur ?
Oui,
nous sommes à Farchana 2, en face du Wadi.
Nous
sommes devant le château construit par UNICEF.
24 heures sur 24. Elle me regarde, elle me regarde ma vie.
Ah. Ils ont l'eau 24 heures sur 24. Avant, ils buvaient de l'eau non potable au Wadi.
Et maintenant, ils ont l'eau potable.
Maintenant, ils ont l'eau potable.
Et ça fonctionne avec des panneaux solaires, c'est ça?
Oui, ça fonctionne avec du solaire.
Un peu plus bas dans le Wadi, des enfants creusent à la recherche d'eau.
Alors Moustapha, où est-ce qu'on est là?
On est au Wadi.
Donc là, pour décrire, c'est une immense étendue de sable, entourée d'arbres. Mais normalement, il y a de l'eau ici.
On y trouve des enfants qui puisent de l'eau, mais ce n'est pas une eau potable. Hein.
Oui, on voit là, un peu marron. Quoi.
Un peu marron. Ça veut dire que ça peut être une eau contaminée.
Mais il y a des petites filles qui sont venues chercher l'eau.
Ils utilisent l'âne comme moyen de transport. Et c'est elle qui achemine l'eau dans leur ménage respectif.
La version intégrale de ce grand reportage d'Igor Strauss au Tchad était écoutée sur RFI à 12h10 ou 20h40 heure de Paris, ou bien en podcast sur notre site ou sur l'application Pure Radio. Dans une minute sur RFI, un nouveau journal. On sera en direct de Kiev. On revient sur ces pourparlers indirects entre la Russie et l'Ukraine.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Ce lundi sur RFI.
Jusqu'où nous entraînera l'archéologie?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec deux archéologues tout-terrain. L'une a découvert d'étranges sépultures de Gaulois assis, l'autre a percé les mystères de gigantesques constructions oubliées de l'Arabie Saoudite au Kazakhstan. Comment creuser dans l'espace comme dans le temps?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.